Cette machine, c'est celle qui changera le plus notre vie dans l'avenir.
C'est pour aujourd'hui ou pour demain ?
Qu'est-ce qui a changé ?
Et qu'est-ce qui va changer dans nos déplacements avec les nouvelles technologies ? En plein week-end, donc, de chassés croisés sur les routes, il ne s'agit pas de parler de voitures particulières, même intelligentes, mais de ces moyens de transport qui nous permettent d'aller plus vite, plus haut et toujours plus loin. Avec l'accélération du progrès, l'être humain rêve de traverser les continents en quelques instants et de repartir à la conquête de l'espace. Un rêve clairement exprimé par le milliardaire Elon Musk, celui qui a fait fortune avec PayPal et qui s'est reconverti dans de multiples activités comme le ravitaillement de la Station Spatiale Internationale, souhaite ainsi coloniser la planète Mars. Il prévoit l'envoi d'une capsule dès l'an prochain et d'une expédition humaine pour 2025. Côté terrestre, outre ses voitures Tesla, Elon Musk ambitionne de dynamiser l'Hyperloop, un système de transport qui serait capable de rallier San Francisco à Los Angeles en moins d'une demi-heure. Alors, rêve réaliste ou utopie, quel transport peut-on imaginer pour demain ? C'est ce que nous allons demander à nos invités. Tout d'abord, Alexandre Cadin, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez travaillé l'an dernier sur l'Hyperloop, hein, ce fameux moyen de transport. Vous êtes un ancien d'École normale supérieure pour laquelle vous êtes co-responsable du séminaire post-digital consacré à l'intelligence artificielle, un thème sur lequel vous travaillez au sein de plusieurs organisations comme le laboratoire Anima. Et vous êtes également ambassadeur européen de XPRIZE, fondation qui se donne pour objectif d'accélérer l'innovation. Un CV long comme le bras, quoi. À vos côtés, bonjour, Jean-Claude Vibault.
Jean-Luc Vibault.
Jean-Luc Vibault, vous êtes un entrepreneur, vous passionné des airs, puisque vous pilotez, mais également vous êtes passionné de l'espace. Vous êtes occupé pour la France de Virgin Galactic, la compagnie de voyage spatial créée par un autre milliardaire, Richard Branson, et vous faites partie de l'Institut du Tourisme Spatial. Avec nous également celui qui a bien les pieds sur Terre, mais rêverait d'avoir la tête dans les étoiles, s'il en avait le temps, à défaut, il a les yeux sur le web. Bonjour Edouane Tella.
Bonjour Didier.
Et en fin d'émission, comme chaque semaine, nous retrouverons les conseils d'Erdir, animateur de CryptoParty, c'est-à-dire de rencontres pour apprendre à protéger ses données personnelles. L'émission est réalisée par Hélène Biziot, avec l'aide aujourd'hui de Grégory Wallon. À la technique, elle est préparée par Léa Dupri-Yenquin et Martin Juré, et mise en musique par Thierry Dupin.
Attention pour décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4... 3, 2, 1, feu, allumage.
France Inter, c'est pour aujourd'hui ou pour demain ?
C'est pour aujourd'hui ou pour demain ?
Didier Siam.
Eh bien, vous avez entendu le décompte, hein, il est l'heure de décoller avec la chronique de Redouane Tella.
I have not always been wrong about the future of events.
Et Redouane, aujourd'hui, vous avez décidé de nous embarquer à bord d'une navette spatiale.
Oui, enfin non, puisque la navette spatiale dont je vais vous parler aujourd'hui a pour particularité de ne pas pouvoir accueillir de passagers ni même de pilotes. Techniquement, ce n'est donc pas une navette spatiale, mais un drone spatial, on va l'appeler comme ça, puisqu'il est piloté à distance et qu'il est capable de quitter l'orbite terrestre. L'engin a en tout cas un petit nom, tout droit sorti de Star Wars, le X-37B, B comme Boeing, puisque c'est Boeing qui le fabrique. Il mesure 9 mètres de longueur pour quelques centaines de kilos et a tous les attributs physiques d'une navette spatiale. Le X-37B ne ressemble en rien au petit drone que votre beau-frère est fier de faire voler au moment des repas de famille.
Ouais, et pour cause, hein, ce drone n'est a priori pas piloté par votre beau-frère, que je ne connais pas, mais
non,
par l'armée de l'air américaine.
Ouais, et ça change tout. D'abord en termes de performance, lors de son dernier vol, le X-37B est resté en orbite plus de 700 jours sans s'arrêter, quand le drone de votre beau-frère tient à peine 5 minutes au-dessus de votre tête. Et ça change tout aussi en termes géostratégiques, parce que le pauvre petit drone, à part vous pourrir votre déj de famille, il ne va pas vous faire de mal, alors que le drone spatial de l'armée de l'air américaine, lui, alimente tous les fantasmes. Officiellement, le X-37B avait été conçu en 1999 pour tester de nouvelles technologies liées au vol spatial, notamment des protections et des résistances imaginées pour le tourisme. C'est d'ailleurs pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Mais depuis quelques années, les missions du X-37B sont classées confidentielles, ce qui a eu pour résultat direct de rendre très méfiantes la Chine et la Russie. Les deux puissances mondiales sont en effet persuadé depuis des années que le X-37B est en fait un tueur de satellites qui finira par tuer leur satellite. Et ce qui est étonnant dans cette affaire, c'est que l'armée de l'air américaine dément à peine.
Mais alors quelle est sa stratégie en fait, de faire peur ?
Ouais, sans doute, vous connaissez la fameuse phrase « qui veut la paix prépare la guerre ». Et bien là, on est plutôt dans du « qui veut la paix fémine de préparer la guerre » puisque dans les faits, rien ne prouve que le X-37B possède un arsenal capable de détruire un satellite. Au contraire, les spécialistes sont unanimes, cette théorie n'est pas plausible, alors pourquoi les États-Unis se complaisent dans cette idée d'éventuelle guerre des étoiles à l'heure où l'on envisage le tourisme spatial ? Pour le comprendre, il faut se souvenir de cette pensée de Lyndon Johnson qui a été président des États-Unis. L'Empire romain a régné sur les mondes car il régnait sur les routes. La Grande-Bretagne était la plus grande puissance mondiale car elle a su maîtriser la mer. L'Amérique a ensuite pris le relais au XXe siècle car elle était toute puissante dans le ciel. En d'autres termes, si tu veux être le maître du monde, il faut être capable d'avoir la main sur les flux. Et si le seul moyen pour les États-Unis de préserver son hégémonie était de maintenir une chape de plomb au-dessus de ceux qui ont déjà la tête dans les étoiles.
Alors messieurs, est-ce que vous aviez entendu parler de ce fameux drone Jean-Luc Vibault et non pas Jean-Claude, pardon Jean-Luc.
Oui, bien sûr, toute la communauté astro-touristique connaît ce projet. C'est sûr qu'il est...
Enfin, plus qu'un projet, puisqu'il vole.
Oui, drone. Oui, bien sûr. Et simplement, bon, l'armée américaine, vous savez, ne communique très peu sur ce type de projet, parce qu'on est dans le cadre d'un programme qui s'appelle ITAR, dans lequel, d'ailleurs, les navettes spatiales type Virgin, etc. sont inscrites. C'est-à-dire que toute la technologie qui est développée sur le territoire américain ne sort pas du territoire.
Est-ce que, Alexandre Canin, est-ce que quand on est comme ça dans le cadre d'une recherche a priori au départ qui pourrait être civile, il n'y a pas obligation d'abord d'avoir un intérêt militaire ?
Ah oui, alors c'est vrai que c'est des enjeux qui sont souvent portés, on le sait, pour l'innovation disons radicale sur des enjeux très scientifiques. Des thématiques qui sont d'abord portées par des enjeux militaires. C'est le cas ici. On a le souvenir d'un certain nombre d'autres projets qui ont pu garder comme ça pendant longtemps un certain mystère. Et je pense que là, ce qu'on vient d'entendre, effectivement, est tout à fait fascinant pour ça. À titre personnel, j'avais entendu parler du projet sans jamais vraiment comprendre, effectivement, où on en était aujourd'hui. Et je trouve ça assez excitant et fascinant de se dire qu'on a devant nous de belles applications possibles à ces projets-là.
Alors, tous les deux, vous avez travaillé sur des projets où vous continuez à collaborer à des projets. Il y a quand même quelque chose d'assez fort, et le rapport quand même avec les nouvelles technologies aujourd'hui, c'est qu'on voit que pendant longtemps, ça a été porté, les gros projets ont été portés par l'État, et aujourd'hui, c'est essentiellement porté par des milliardaires qui ont fait fortune souvent dans les nouvelles technologies. Alors Jeff Bezos, on va en parler un peu plus tard. On a l'Hyperloop, on va en parler tout à l'heure avec Elon Musk, ou Richard Branson. Est-ce que c'est pas ce changement de société également ?
Alors, Richard Branson, il a une vertu, on peut dire, c'est qu'il a été le premier à prouver que des investissements privés, c'est-à-dire non plus l'argent du contribuable, mais vraiment des investissements personnels, voire privés, pouvaient remplacer des projets aussi importants que ceux qui étaient administrés toujours par des agences publiques. Donc, et là, il a fait la preuve avec le projet Virgin Galactic et Spaceship 2, etc. Bon, après, la technologie, évidemment, est délicate.
Et coûte cher.
Donc, l'intensité capitalistique avant était réservée au public. Et d'ailleurs, ils n'ont pas fait que des belles choses, puisqu'on a une poubelle dans l'espace aujourd'hui dont il faut se débarrasser. Et je ne sais pas si les agences publiques vont vraiment s'en charger. Je pense que c'est le privé qui va prendre le relais. Donc, il était temps que le privé vienne et prouve qu'il était capable d'investir l'espace.
Oui. Et Alexandre Canin, vous, par exemple, vous travaillez, je le disais tout à l'heure, sur XPRIZE, qui est une fondation qui réunit comme ça un certain nombre de milliardaires, quand même, on va le dire, pour accélérer l'innovation. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu un passage de témoin entre justement les États et ces fortunes-là ?
Absolument, ouais. C'est aussi le sentiment que je partage et même ça a été le point de départ en fait de cette fondation non-profit XPRIZE. Le point de départ, Peter Diamandis, qui a été rejoint plus tard par Elon Musk, Larry Page notamment, a été de dire il y a 1000 ans, pour changer le monde, fallait être un roi. Il y a 100 ans, fallait potentiellement être Rockefeller. Et aujourd'hui, a priori, c'est même plus qu'une question d'initiative privée ou d'argent, mais grâce à la démocratisation de l'information, à l'accès aux technologies, on serait potentiellement tous capables de changer le monde, de vouloir atteindre les étoiles. Le fait est qu'on ne le fait pas à l'échelle individuelle quand effectivement on n'est pas encore milliardaire parce qu'on n'est pas forcément incité à le faire. Et tout le propos de la Fondation, c'est d'accélérer l'innovation radicale en suggérant qu'en mettant en compétition sur des thématiques voulues pour gagner des prix entre 5 et 50 millions de dollars, on va pouvoir justement permettre à des privés qui ne sont pas milliardaires de s'engager sur des projets qui font sens pour l'humanité.
Alors, difficile de ne pas penser à lui quand on parle d'espace, d'astronaute, de planète Mars. Il s'agit bien sûr de David Bowie avec Life on Mars. To the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Is there life on Mars? It's on America's tortured brow. Mickey Mouse has grown up a cow, and now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clowns. But the film is a sad thing for, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be writ again, as I ask you to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the
presque arrivé?
Non.
On est presque arrivé?
Non.
Est-ce qu'on est presque arrivé?
Oui.
C'est vrai?
Non.
On est presque arrivé?
Non.
On est presque arrivé?
Non, on n'y est pas.
On est presque arrivé?
Non.
Didier Siamour sur France Inter, c'est pour aujourd'hui ou pour demain?
Malgré les multiples annonces, on n'est pas encore arrivé. En effet, où ça? Eh bien sur Mars, planète que le milliardaire Elon Musk, qui a fait fortune dans les nouvelles technologies, espère coloniser à partir de 2025. Peut-être plus facile en fait à concrétiser son souhait également de voir se développer sur Terre l'Hyperloop, un moyen de transport qui ferait passer le TGV presque pour un train à vapeur. En 2013, Elon Musk a ainsi partagé sur les réseaux un document expliquant l'Hyperloop avec l'idée de rallier San Francisco à Los Angeles en moins moins de 30 minutes. Aussitôt, plusieurs entreprises se sont lancées sur le créneau, dont Transpod, fondé par un ingénieur français passé par Airbus et installé au Canada, Sébastien Gendron. Il nous explique le principe de l'Hyperloop.
Le concept est assez simple. L'objectif, en fait, c'est de recréer une atmosphère en fait sous vide, dans une structure tubulaire dans laquelle on descend la pression atmosphérique pour en fait s'affranchir des frottements aérodynamiques. Et en fait, on met des capsules dans lesquelles on va transporter une trentaine de passagers. Et comme on artificiellement diminue la pression, donc on s'affranchit des frottements, et donc avec des moteurs électromagnétiques et un système de lévitation électromagnétique qui est assez similaire à ce qu'on peut avoir au Japon aujourd'hui, on peut donc théoriquement atteindre des vitesses de l'ordre de 1000 km/h. Et donc avec ce système-là, on peut même passer sur des vitesses, sur des grandes lignes. On pourrait même demain parler sur Paris-Pékin en une heure, parce que la seule contrainte derrière, c'est qu'il reste un petit peu d'air. Mais on a des retours, que ce soit du CERN en Suisse, ou des gens qui ont l'habitude de travailler avec le vide, ils nous disent, vous allez voir, vous allez pouvoir s'affranchir des ondes de choc et même passer en supersonique. Donc il y a même derrière, en fait, sur l'évolution de ce type de transport, bien plus de perspectives intéressantes qu'avec du train à grande vitesse aujourd'hui, qui est limité, quoi. C'est un système qui est assez intéressant dans un sens où, comme vous êtes dans un environnement fermé, vous êtes protégé en fait des intempéries. Donc, que ce soit au Canada, les tempêtes de neige, donc c'est plus vraiment un problème. Il n'y a pas de turbulence. Vous êtes dans un environnement vraiment contrôlé. On a commencé d'ailleurs le développement industriel à la fois en Europe et puis au Canada. On vise une certification autour de 2022. À peu près à la même période, notre objectif, c'est de contractualiser une première ligne entre deux grandes métropoles. Donc c'est clair qu'aujourd'hui, nous, nos efforts sont sur deux corridors au Canada. Donc il y en a un entre Toronto-Montréal et le deuxième en Alberta, entre Calgary et Edmonton. Et donc si on compte à peu près 5 ans pour la construction de la ligne complète, on regarde une première ligne opérationnelle entre 2025 et 2030. Si on regarde le paysage français, moi je vois deux corridors intéressants où il n'y a pas encore de ligne à grande vitesse. Il y en a un bien sûr, c'est Paris-Toulouse, c'est celui qui manque encore, qui sera intéressant. Et après un autre, ce serait de relier Paris à Francfort.
J'ai transplané, c'est ça?
C'est cela. Et de façon magistrale, je dois dire. La plupart des gens vomissent la première fois.
Je ne vois pas pourquoi.
Eh bien, moi non plus. Alors, des capsules dans des tubes, Alexandre Cadin, c'est l'avenir du transport collectif. Vous qui avez travaillé aux États-Unis avec un des concurrents de Transpod, c'est Hyperloop Transportation Technologies, j'espère que je l'ai bien dit. Pour vous, c'est l'avenir?
Oui, je pense que ça répond effectivement à une série de problèmes dont certains viennent d'être évoqués sur la question justement de l'imperméabilité au climat, la capacité à se retrouver justement dans un environnement clos et totalement capable justement de faire abstraction. Quelque part des problèmes climatiques. C'est aussi la promesse, c'est vrai, d'un nouveau moyen de transport. On se rappelle que quand le livre blanc d'Elon Musk a été publié, il y avait bien l'idée de construire un cinquième moyen de transport, que du coup beaucoup de gens essaient de rapprocher au train, à l'avion, essayer de comprendre qu'en est-il. Et en réalité, je trouve que là, c'est vrai, un marché complet qui s'ouvre. On le voit avec justement beaucoup d'entreprises qui se lancent.
Oui, parce qu'aujourd'hui, on a à peu près 3 grosses entreprises en Amérique du Nord, mais il y a aussi un projet en Europe avec des Néerlandais, en Corée, où ils sont très avancés, parce que n'oublions pas que ce principe de la lévitation est quand même quelque chose qui existe, mais pas dans des tubes jusqu'à maintenant. C'était exactement au Japon, en Chine notamment. Donc on voit en effet qu'il y a quand même pléthore de candidats,
et le monde est grand encore, même s'il sait que le projet d'Hyperloop est certainement de tenter de le rétrécir, en tout cas de parvenir à voyager comme ça à la vitesse du son. Et c'est vrai qu'on se rend compte, j'ai notamment fait partie de négociations gouvernementales aux Émirats, on négocie des lignes entre Abu Dhabi et Al-Ain par exemple, avec Hyperloop Transportation Technologies, et c'est vrai de se rendre compte qu'il y a comme ça une forme de magie dans la concurrence même de tous ces projets, parce que quelque part ils ouvrent tous ensemble un marché qui n'existait pas encore. Et je pense que c'est justement très bénéfique qu'il y ait différents acteurs qui travaillent en fait à des niveaux de technologie qui sont parfois différents, sur des propositions qui ne sont pas les mêmes évidemment, et qui du coup permettent vraiment de rendre cette fiction, je pense, une réalité bien plus vite que ce qu'on aurait pu l'espérer.
Jean-Luc Vibeau, vous voyez ça comment? Vous voyez, est-ce que c'est du train, est-ce que c'est de l'avion? Parce qu'on est, on le voit dans des tubes, et en fait on reconstitue artificiellement le contexte qu'on trouve pratiquement à 50 km au-dessus de la planète.
Oui, c'est ça. En fait, il y a toujours quelque chose qui a fasciné les chercheurs, c'est que en fait, l'aviation aujourd'hui est complètement archaïque parce qu'elle utilise en fait la couche basse de l'atmosphère, qui est là où en fait on freine le plus, et donc on suit la courbe de la Terre pour aller d'un point à un autre, ce qui est quand même le chemin le plus long. Et en plus, parfois, on utilise la rotation de la Terre à l'envers, alors qu'elle tourne quand même à pratiquement 2000 km/h. Donc ce qui vient logiquement à l'esprit, c'est on va plutôt faire une trajectoire de missile balistique, c'est-à-dire on va sortir de l'atmosphère, on va faire un triangle en fait, comme un triangle ou comme un saut. Et de ce fait-là, on va dans l'espace, on attend que la Terre tourne, puisqu'après tout elle tourne à 2000 km/h, et puis on plane et on atterrit de l'autre côté des continents. Ça, c'est l'esprit, en se disant après tout c'est vrai, on reste dans l'atmosphère, ça freine, on consomme du pétrole, enfin c'est complètement invraisemblable quoi. Même si la magie d'Airbus existe toujours, bien entendu. Mais enfin, aujourd'hui on se dit vraiment c'est très consommateur, très polluant, pourquoi pas aller dans l'espace.
On va en parler d'énergie tout à l'heure, si vous voulez bien.
Donc il y a toujours cette bagarre entre pourquoi pas aller dans le vide et puis utiliser justement le vide comme on parlait tout à l'heure.
Reconstituer dans des tubes ou sinon en montant avec des navettes très haut et d'attendre pour se poser.
Par exemple, on veut aller sur Mars mais on va utiliser le même type de moteur que dans l'Hyperloop, c'est-à-dire la fameuse propulsion magnétoplasmique.
Alors,
on parlera peut-être, mais...
Avec des réseaux terrestres encombrés qui frôlent souvent la saturation, les opérateurs des nouvelles technologies regardent de plus en plus, vous venez de le dire, vers le ciel et... Pas si haut que ça d'ailleurs, pour la livraison de marchandises, Amazon envisage ainsi de livrer ses clients dans certains pays par des drones. Et comme pour le transport de personnes également, c'est ce qu'envisageait dès janvier 2016 la société chinoise Ehang. Et il y a quelques mois, Airbus aussi a présenté un projet, un concept pop-up. Donc les drones fleurissent, les opérateurs dans cette activité se multiplient également. En France, néanmoins, il y a une législation assez stricte qui empêche, on va dire, un envahissement du ciel. Écoutons Antoine Vidal, qui est gérant de la société Skydrone, une start-up spécialisée dans la vidéo aérienne par drone et qui commence à développer une activité de transport.
Il y a un risque que le ciel soit complètement embouteillé de drones et il me semble que c'est pour ça qu'il faut favoriser le transport de colis par drone pour des objets qui nécessitent une réelle urgence, ce qui n'est pas le cas des pizzas, du courrier, des chaussures d'Amazon. Nous, la société Skydrone, on travaille sur un projet de transport de sang pour le marché africain et les pays émergents, sur de la longue distance dans des pays où il y a peu d'infrastructures routières. On travaille aussi pour un projet pilote qui s'appelle Drone for Life. Le projet est de transporter des poches de sang et des échantillons et des produits pharmaceutiques entre deux hôpitaux dans la ville de Bordeaux. Ça permet de transporter plus vite et de manière plus sécurisée et plus autonome. Aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas vraiment de limite. Il y a déjà des drones, en tout cas des prototypes, qui transportent des personnes, qui sont donc capables de lever 100 kilos pendant plusieurs minutes. C'est comme un taxi ou un Vélib, c'est-à-dire qu'on vient passer son badge, on rentre dans le drone qui décolle et nous emmène, grâce à la programmation par un iPad ou tablette, à un endroit qu'on a désiré.
Alors le drone, Jean-Luc Bibeau, c'est une solution envisageable également ?
Oui, le drone, enfin toutes les solutions sans pilote sont aujourd'hui évidemment les solutions d'avenir. Je pense que le pilote de chasse aujourd'hui peut se poser quelques petits problèmes sur son avenir.
Ouais. Parce qu'un drone, une ubérisation, comme on dit, dans secteur. Oui,
probablement. Mais tout ce qui est évidemment autopiloté est bien plus efficace que ce qui est piloté par l'homme. 85% des accidents d'avion aujourd'hui sont des facteurs humains principalement. Donc, on va vers une automatisation du pilotage. Faut pas oublier que sur un vol intercontinental, aujourd'hui, un pilote, sa moyenne de pilotage personnel est autour de 8 à 10 minutes.
Et en même temps, on peut pas non plus faire voler des milliers d'objets à travers dans le ciel.
Si, aujourd'hui, oui, bien sûr, parce qu'on a des systèmes de géolocalisation qui sont absolument hyper précis, notamment avec les nouveaux projets européens de positionnement par satellite, Galileo, si je me souviens bien. En plus du système GPS, en plus de Glasnost, le système russe, on a maintenant un triple positionnement qui permet vraiment un positionnement hyper précis.
Oui, Alexandre Canin, vous vouliez réagir par rapport aux drones et à cette invasion du ciel, on va dire.
Ouais, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, parce que je me rends compte qu'en fait, ça participe beaucoup de notre imaginaire aussi. De se dire, quelque part, l'innovation, sa plus belle métaphore, c'est presque dans le transport. Et vous savez, il y a cette phrase assez célèbre de Peter Thiel, un des cofondateurs d'ailleurs avec Elon Musk de PayPal, qui disait, on nous avait promis des voitures volantes et on a eu 140 caractères, quoi. On a promis que le futur serait extraordinaire et finalement, on s'est retrouvé avec Twitter. Et quelque part, il y a aujourd'hui, je pense, dans l'innovation et sur ces sujets-là, une question qui m'intéresse beaucoup, qui est de se dire, est-ce que parce qu'on est capable de le faire, il faut le faire ? Et typiquement, la position d'Elon Musk là-dessus, c'est de dire, les voitures volantes, non. Parce que concrètement, dans la rue, a priori, des passants, quand bien même, je suis d'accord, il y aurait une capacité à sécuriser ce transport, pour tous, une petite inquiétude de voir le ciel s'encombrer, même concrètement s'obscurcir de petites navettes volantes. Et c'est pour ça d'ailleurs que le projet le plus récent là, d'Elon Musk, avec The Boring Company, c'est bien de faire des tunnels pour passer cette fois sous terre. Et je trouve vraiment intéressant le fait que ça challenge un petit peu notre imaginaire collectif et que quelque part la science-fiction a pu partir dans des développements probables qui ne sont pas forcément désirables, je pense.
Tous les voyants au vert, ça fonctionne.
Il nous faut passer en hyper vitesse dans les 5 minutes pour attirer leur attention.
Les nacelles sont chargées sur relais, alors allons-y.
En route.
Le champ de force est impeccable. Résistivité de la coque, RAS.
Vitesse, 20 000 km par seconde. Seigneur Jésus! Relax, c'est pour nous signaler qu'ils ont vu qu'on allait vite.
Extrait de Star Trek, Premier Contact, le 8e long métrage inspiré de la série du même nom, est sorti en 1996. Mais je rêve d'ailleurs, pas moi, il s'agit de la chanson de Lady Sir, le duo réunissant Rachida Brakni et Gaëtan Roussel.
Je rêve d'ailleurs, d'ailleurs féerique. Je rêve d'ailleurs, d'ailleurs atmosphérique.
Oui, ne t'raconne pas. مع حبابي في الجنة في الجنة فرحبا مدى عارفين وزهين
Je rêve d'ailleurs de ville constellée Je rêve d'ailleurs de pays safari
وين نضحك ونبكي مع حبابي في الجنة
Je rêve d'ailleurs Avec pour seul bagage Tes yeux pour le voyage Yeah, Gabi De Médine à Constantine De Rio à Santiago De Ouaga à Malaga Nicosie à Nairobi, de Mumbai au Népal, Medellin à Nashville, de Lisbonne à Vérone, Borneo à Mexico. Je rêve d'ailleurs, je rêve d'ailleurs, d'ailleurs inconnus. Je rêve d'ailleurs, d'ailleurs et d'un Je rêve d'ailleurs.
On se retrouve dans C'est pour aujourd'hui ou pour demain, où nous parlons de voyages du futur, de déplacements toujours plus rapides, toujours plus haut et peut-être toujours plus loin, grâce aux nouvelles technologies, et peut-être même voyages dans le futur, puisque certains évoquent la téléportation, n'est-ce pas Alexandre Cadin, hein ? Vous êtes un de nos invités avec Jean-Luc Vibault. Messieurs, nous verrons tout cela tout à l'heure. D'abord, en ce 21e siècle, se pose quand même la question, quand on pose la question du transport, se pose la question de l'énergie. Alors après des décennies de déplacements avec des énergies non renouvelables, il est grand temps quand même d'envisager d'autres moyens. On s'est intéressé, vous savez, à Energy Observer, ce bateau qui est parti pour un tour du monde de 6 ans, avec la particularité d'être alimenté uniquement avec des énergies renouvelables et de produire son propre hydrogène. Martin Juret a eu droit à une présentation détaillée par le capitaine Victorien Hérussard.
Energy Observer est un navire de 30 m50 de long, 12 m80 de large. C'est un gros navire qui anciennement était un navire de course à la voile. Il a notamment gagné le Tour du Monde et on l'a reconditionné, on l'a recyclé pour intégrer différentes sources d'énergie renouvelable et différentes sources de stockage batterie et stockage d'hydrogène. Donc, c'est un navire du futur zéro émission. Ce bateau a donc de l'énergie solaire symbolisée par 120 mètres carrés de panneaux solaires. On a ensuite de l'éolien symbolisé par deux éoliennes à axe vertical et de l'hydrolien via donc l'aile de traction intelligente. Donc c'est un grand cerf-volant de traction qui permet de produire de l'électricité à partir de nos hélices qui tournent lorsqu'on est en traction. Donc ces différentes sources d'énergie renouvelable alimentent notre parc batterie. Le parc batterie lithium-ion 400 volts alimente les moteurs électriques et également la vie du bord. Donc l'hydrogène qui est un vecteur énergétique, on se sert de cette énergie lorsqu'on est en défaillance. Qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a pas de soleil? Qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a pas de vent? Donc deux formes de stockage, le court terme les batteries, le long terme l'hydrogène. En fait la particularité de l'hydrogène, vous savez sur un bateau on est en recherche permanente d'économiser du poids. Et le système de stockage d'hydrogène est 4 fois plus léger que le système de stockage batterie. Sur ce navire on a donc toute une chaîne de production d'hydrogène autonome. On convertit l'eau de mer en hydrogène. Donc Energy Observer est pionnier sur ce genre de technologie. C'est une première mondiale de faire fonctionner ces énergies renouvelables avec cette chaîne de production d'hydrogène dans la mobilité maritime. Par contre, je suis sûr que ce système va se développer dans les années à venir, ça j'en suis persuadé, mais pas que dans le secteur maritime, dans le secteur terrestre. Voilà, tout devrait s'accélérer les prochaines années.
Alors, pas que dans le secteur maritime, sans doute dans le terrestre et peut-être même l'aérien, voire le spatial. Jean-Luc Vibault, vous êtes, vous, sur le tourisme spatial. Est-ce qu'il y a quand même un côté un peu luxe quand on parle du tourisme spatial et on se dit qu'à un moment donné, il y a peut-être aussi un problème d'énergie? Ou alors, est-ce qu'on a des moyens plus économiques aujourd'hui de voler?
Alors, faut comprendre déjà ce qu'on entend par tourisme spatial, entre guillemets. Tourisme spatial, si vous prenez votre ticket pour aller visiter la Cité de l'Espace à Toulouse, vous faites déjà du tourisme spatial.
Oui.
Vous prenez un masque de réalité virtuelle
et voilà.
Voilà, vous faites déjà un joli voyage. Maintenant, aller dans l'air uniquement avec les énergies renouvelables, on a un exemple magnifique avec Solar Impulse de Bertrand Piccard qui a réalisé le tour du monde récemment.
Donc cet avion.
Il a fait la preuve. Alors, quelle preuve justement? La preuve qu'on pouvait faire léger, puisque en fait l'appareil en lui-même a une envergure qui est de la taille d'un Boeing, d'un Airbus A380 à peu près, et il pèse une tonne 5 en entier, dont 600 kilos de batterie. On revient sur le problème qui était évoqué dans l'interview tout à l'heure.
L'Energy Observer, exactement.
Voilà, c'est le problème aujourd'hui, principalement dans le vol électrique, c'est le poids des batteries. Alors, on fait des progrès absolument phénoménaux. Et c'est vrai que sur la Terre, on arrive maintenant à avoir des petits véhicules complètement autonomes. Dans l'air, on arrive maintenant à 50 minutes, une heure de vol. Avec des petits avions légers. Cet appareil-là, en fait, a le mérite de prouver que on a une résistance des matériaux maintenant qui est exceptionnelle avec un poids ultra léger. Et ça ouvre évidemment à toutes sortes de développements parce que qui dit poids léger dit moteur léger pour une propulsion quand même maximum.
Et moins de consommation.
Et donc, évidemment, beaucoup moins de consommation.
Et quelle est la consommation, généralement, quand on voyage, on va dire, de manière traditionnelle, déjà, par avion?
Alors, avec les énergies fossiles, on a fait beaucoup de progrès, puisque Boeing 707, on tournait à autour de 8 litres aux 100 km par passager.
par passager, par donc passager. Autant qu'une voiture.
Voilà, on l'a plus que divisé par deux avec les Airbus aujourd'hui. Mais on en est toujours à la consommation d'une, veut dire, d'une toute petite voiture ou d'une moto, on va dire, par personne aux 100 km. Donc quand on a 600 personnes dans un avion, vous imaginez la consommation. Et donc la production d'oxyde de carbone et tout ce qu'on peut imaginer comme on va dire, rayonnement dans la haute atmosphère de polluants.
Et alors, revenons sur le tourisme spatial. Une navette telle qu'elle a été imaginée par Richard Branson, même si c'est pas lui le constructeur, ça veut dire quoi en termes de consommation?
Elle est très polluante, évidemment, comme tous les autres réacteurs, on va dire, aujourd'hui, mais sur une distance de 50-60 km. À partir du moment où on a l'énergie initiale fournie par cette propulsion, à partir de 50-60 km, il n'y a plus de traînée, puisqu'il n'y a plus d'air. Et donc l'appareil continue sur sa lancée. Et il va faire une sorte de vol balistique, c'est-à-dire il va continuer jusqu'à être réattiré par la gravité terrestre. Donc il y a un moment où il y a un équilibre qui se fait entre l'inertie de l'accélération et puis l'attirance gravitationnelle, donc la gravité qui va le réattirer vers la Terre. Donc il va faire ce vol balistique comme un caillou que vous lancez en l'air. Il va partir vers le haut et puis redescendre en vol plané. Donc en fait, la consommation, elle se fait sur l'accélération, elle a été calculée et elle est vraiment pas comparable à la dépense d'un avion qui fait un vol intercontinental comme aujourd'hui où il dépense 100 tonnes de carburant.
Alors concernant justement ce tourisme spatial, où en est-on? Parce que Richard Branson a été, vous le disiez tout à l'heure, un des premiers à imaginer cette perspective. Il avait créé Virgin Galactic et puis... En 2014, patatras, hein, crash de l'appareil, le Spaceship 2, accident qui tout d'un coup a gelé tous les projets. Mais les projets ont repris en fait en 2016, il y a eu des essais. Et Richard Branson maintenant, qui est concurrencé quand même par Elon Musk avec SpaceX, ou Jeff Bezos, le patron d'Amazon, qui avait créé lui Blue Origin, il veut relancer le programme pour des premiers vols commerciaux fin 2018. Et il y aurait même déjà 700 réservations. Alors, est-ce que c'est de la communication tout ça, ou est-ce que ça existe réellement?
Alors, au départ, le programme, effectivement, c'était basé sur de la communication pour lever suffisamment d'argent, notamment des fonds saoudiens. Et la technologie, malheureusement, s'est heurtée sur la propulsion. Sans revenir dans le détail, il y a eu un choix au départ qui était peut-être pas le meilleur des choix. Malheureusement, ça s'est terminé par un choc, effectivement, le 30 octobre 2014. Et depuis, en fait... le marché des microsatellites, en fait, a submergé le marché de l'astrotourisme. Les GAFA, les fameuses sociétés américaines milliardaires, ont extrêmement intérêt à couvrir la Terre avec des microsatellites en orbite basse pour que tout le monde ait accès
à
Internet. Évidemment, il y a 1,5 milliard de personnes qui n'ont pas Internet, et donc Amazon, tout ça, ils sont très très intéressés. À la tête d'Amazon, il y a donc Jeff Bezos, que vous connaissez, qui est maintenant l'homme le plus riche du monde.
Personnellement, non, je le connais pas.
Non, mais je veux dire, d'un point de vue général, on commence à le connaître parce qu'on vient d'annoncer qu'il était l'homme le plus riche du monde, parce que sa société a dépassé comme 4 autres sociétés aux États-Unis, les 500 milliards de capitalisation. Et avec ça, il a fabriqué une société, donc sur fond personnel, qui s'appelle Blue Origin, avec un lanceur qui s'appelle Shepard. Et avec ce lanceur, en fait, il a fait la preuve, mais là, il a dépassé tout le monde dans ces dernières années, qu'on pouvait atteindre l'espace avec un véhicule et surtout le récupérer. C'est-à-dire que l'appareil redescend exactement sur son point de départ.
C'est la première fois qu'un propulseur, en fait, redescend.
Exactement, et surtout la première fois qu'on le fait 3 fois de suite et qu'on prouve qu'effectivement ça marche. Donc là, on peut imaginer tout ce qu'on peut faire avec ça, lancer des satellites ou aller visiter l'espace à peu de frais.
Visiter l'espace à peu de frais. Alors vous, Alexandre Cadin, vous avez des solutions pour visiter l'espace à peu de frais? Ou quand Elon Musk annonce qu'on va aller sur Mars en 2025 peut-être, alors lui aussi, il y a quand même beaucoup de communication, on voit que son plan initial a été... révisé à de nombreuses reprises. On attend d'ailleurs, je crois, je lisais en préparant l'émission, que fin septembre, il doit dévoiler de nouveaux plans lors du congrès astronautique international qui se tiendra en Australie. Vous y serez peut-être, Jean-Luc Vibeau, je ne sais pas. Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de communication? Est-ce qu'il y a d'autres moyens de voyager?
Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de communication autour de ce projet. Je pense que, sincèrement, il est habité par une forme de mission double assez extraordinaire. D'un côté, sauver notre environnement, presque la planète, en accélérant la transition énergétique, avec Solar City, Tesla, et puis avec SpaceX, l'idée concrètement de coloniser d'autres planètes pour potentiellement sauver l'humanité, la rendre immortelle à l'échelle globale, c'est-à-dire à l'échelle de notre humanité. Je crois que il est vraiment habité par ce type de mission. Je pense que il a fait aussi l'épreuve technologique justement extraordinaire et qui ont en quelques années permis effectivement, également avec Jeff Bezos et d'autres, d'ouvrir une voie privée à l'espace. Moi, j'ai été fasciné en arrivant à Los Angeles il y a un peu plus d'un an et demi par l'espèce de fascination qu'il y a pour l'espace et pour Mars en particulier dans la ville, mais partout. C'est-à-dire que c'était plus que la question justement d'astrophysiciens, de grands ingénieurs, mais que finalement chacun dans la ville voulait prendre part au rêve, y compris à Hollywood quelque part.
Mais quand on parle de voyage sur Mars, on en parlait l'autre jour, vous me dites, oui, mais pour y faire quoi? Et est-ce qu'on a besoin d'y aller?
C'est ça. Alors c'est assez drôle parce qu'on a, en arrivant justement là-bas, on a monté avec des amis une sorte de petit think tank tout simple qui s'appelait Los Angeles Mars, où on essayait de se dire bon, c'est sympa de partir, c'est sympa de survivre 30 jours, mais après qu'est-ce qu'on y fait? Donc la question c'était comment vivre et s'aimer sur Mars. Et derrière l'idée, notamment avec une association qui s'appelle Mars City Design, c'est de pouvoir imaginer les premiers habitats martiens en partant du principe qu'il allait certainement être nécessaire, avec l'objectif d'avoir 1 million d'humains sur Mars d'ici 2030, de penser une ville et potentiellement surtout en retour pour nous humains sur Terre, de repenser ce que pourrait être la cité idéale. C'est-à-dire quand on redémarre à zéro, sur un caillou rouge, comment est-ce qu'on pense finalement la ville et même ses moyens de transport? Est-ce qu'on redémarre à zéro ou est-ce qu'on fait un petit effet leapfrog et on se dit finalement on démarre direct avec Hyperloop? Et c'est des sujets qui m'ont absolument fasciné. Je pense qu'il y a là-bas effectivement ce mariage des communautés scientifiques et créatives, artistiques, pour justement penser des futurs assez fous.
Mais alors on
planètes.
Y va ou pas sur Mars?
J'espère, moi j'ai très envie d'y aller et je pense que c'est effectivement une sorte, comme le dit Elon Musk, de mission pour notre époque, notre génération, à se dire qu'on est capable, après la grande épopée de la Lune, de partir sur Mars.
We are energizing transporter beam, now.
Transporter, stand by.
Alors peut-être qu'on ira en téléportation, comme dans Star Trek. En tout cas, comme chaque samedi, C'est pour aujourd'hui ou pour demain vous permet de vivre la première crypto-partie radiophonique, une crypto-partie, c'est-à-dire une réunion avec des experts du net pour apprendre à ne pas laisser de traces derrière vous de données trop personnelles. Sur France Inter, l'expert c'est Erdir, pour qui ce n'est pas parce qu'on n'a rien à cacher qu'on doit tout montrer. Et aujourd'hui, Erdir nous parle des messageries.
Le risque avec les messageries, c'est d'être espionné, que ce soit par un gouvernement ou par une société. Par exemple, Facebook Messenger, qui est l'une des applis de chat la plus utilisée aujourd'hui, a décidé d'analyser en fait tout ce que vous disiez justement dans cette partie de Facebook. Donc si vous parlez d'un tel ou un tel, ils pourront éventuellement faire une connexion entre vos amis et la personne dont vous êtes en train de parler. Ils vont avoir suffisamment de calculs et d'algorithmes derrière pour pouvoir comprendre ce dont vous êtes en train de parler. On rentre dans une correspondance privée, mais vous avez accepté les termes et conditions. Donc ils ont le droit de le faire, ils ont le droit de regarder ce que vous êtes en train de dire pour mieux, encore une fois, vous cibler et mieux savoir ce que vous pensez et savoir ce qu'il y a dans votre cerveau.
Alors est-ce qu'il y a des bonnes messageries et des moins bonnes messageries?
Alors oui, il y a des bonnes et des moins bonnes messageries. Mais il y en a des plus pratiques et des moins pratiques. C'est aussi le problème. Les gens, très souvent, ont tendance à aller vers la praticité. Il existe plein de messageries privées, que ce soit sur l'ordinateur, sur les téléphones portables, dans les applications mobiles. Vous avez Telegram, dont on entend très souvent parler en mal.
Parce que c'était utilisé comme moyen de communication par les mouvements terroristes.
Notamment. Exactement, mais c'est un moyen justement de chiffrement, de respect de votre vie privée. Puisque vous-même, vous pouvez créer un groupe avec vos amis. Tiens, ce week-end je vais au barbecue de surprise de Gérard, faut pas que Gérard soit au courant. Hop, on crée un petit groupe sur Telegram pour s'organiser, qui achète les chips, qui achète la bière. Et comme ça, on a pu faire notre petit groupe secret. Et Gérard n'en a rien su puisque la femme de Gérard avait désactivé ses notifications et a pu tout faire sans que Gérard s'en aperçoive. Telegram, qui a été développé par un Russe. Alors ça, c'est le petit point noir de Telegram, parce que récemment, la Russie a dit « nous allons reprendre un petit peu la main là-dessus ». Donc on ne sait pas trop quel est l'avenir de Telegram actuellement. Telegram n'est pas open source, donc on ne peut pas voir quel est le code qui a été utilisé. Est-ce qu'il n'y a pas malversation et peut-être un logiciel caché à l'intérieur ou une porte dérobée pour pouvoir accéder à tous les messages de tout le monde? On ne sait pas. Pidgin, Tor Messenger et Adium sont trois logiciels qui font à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'ils vont sur des plateformes de chat. Donc le protocole utilisé pour parler dans ces chats-là, comme vous avez le HTTP, vous savez, pour vous connecter à Internet, vous avez le XMPP pour parler en mode chat. Et donc ces trois logiciels-là, donc Adium, Pidgin et Tor Messenger, vont pouvoir vous connecter justement à des comptes que vous aurez créés sur des services Jabber. Donc c'est les services de chat qui existent aujourd'hui. Et ces trois logiciels-là vous permettront d'installer une couche de chiffrement via OTR, l'acronyme de Off the Record, donc non enregistré en français, qui va permettre d'échanger avec vos amis avec des sessions privées et chiffrées qui s'effacent automatiquement une fois la session terminée.
Le SMS, aujourd'hui, c'est un moyen de dévoiler sa vie privée.
Le problème, en fait, c'est que votre opérateur téléphonique, lui, peut avoir accès au SMS que vous avez envoyé, que vous avez reçu. Il garde en mémoire ces SMS-là pendant un nombre de jours qui a été donné par la CNIL.
C'est pour aujourd'hui ou pour demain ? Crypto-party.
Merci à nos invités, donc Alexandre Cadin, vous qui avez travaillé sur l'Hyperloop et qui vous occupez de l'ouverture en mois de septembre d'ailleurs d'un campus dans le sud de la France qui va s'appeler The Camp. Et puis merci Jean-Luc Vibeau, on espère vous retrouver bientôt pour commercialiser les billets pour les voyages spatiaux.
Space, the final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its five-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before.
Allez, on se quitte sur la bande originale de Star Trek, vous l'avez tous reconnu, c'est donc fini pour aujourd'hui et pour demain. Vous nous retrouverez samedi prochain pour parler d'alimentation et nous demander en quoi le numérique révolutionne nos assiettes. Bon week-end à tous, pensez à vous déconnecter, mais restez branchés sur France Inter.